Charlotte Derlin, merci d'abord de répondre aux questions de Divergence FM, une radio associative qui est située en plein cœur de Montpellier. Alors on vous interviewe aujourd'hui, c'est parce que vous allez le 4 octobre à la Maison de la démocratie à Montpellier venir nous raconter beaucoup de choses et nous présenter aussi un ouvrage. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. J'ai accepté l'invitation de mes amis du judaïsme humaniste.
Voilà.
C'est plutôt un combat avec lequel je me sens très proche. En effet, tout en étant juif, israélien et français, je viens d'une culture républicaine, française, libérale.
Et oui, et Pierre, vous avez été, bien sûr, là, les grands, tout le monde le sait plus ou moins, vous avez été correspondant quand même pendant de nombreuses années pour France Télévisions à Jérusalem.
Oui, tout à fait.
Vous avez passé une trentaine d'années, je crois, dans ce...
Oui, même un peu plus.
Ah, même un peu plus.
J'étais journaliste à la radio israélienne en français.
D'accord. Alors donc, vous publiez un ouvrage qui s'appelle « De notre correspondant à Jérusalem ».
Alors là, c'est mon 10e livre. Oui. Il s'agissait pour moi, pour les téléspectateurs, pour les lecteurs, de raconter un peu ce que fut ces 50 années de journalisme, comment j'ai travaillé, quelles étaient les sources, comment j'ai pu vérifier des informations, arriver à interviewer et rester relativement proche, par exemple, des principaux négociateurs israéliens et palestiniens, comment il fallait également couvrir et raconter les extrémistes des deux bords, qu'il s'agisse de palestiniens extrémistes du Hamas ou du djihad islamique à Gaza ou en Cisjordanie, les israéliens très religieux, les intégristes partisans de la reconstruction du troisième temple juif à la place des saintes mosquées à Jérusalem. Pour les juifs, c'est le mont du temple. Pour l'islam, c'est le troisième lieu saint après la Mecque et Médine.
Oui, c'est, vous avez un rôle quand même qui était, vraiment placé en plein cœur de l'action, parce que là, il y avait quand même beaucoup de choses qui se sont déroulées. Je vais vous laisser avec M. Jean-Pierre Foubert, qui va vous poser peut-être quelques questions au niveau international. Hein.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Je me présente rapidement. J'ai terminé ma carrière en étant le directeur des relations internationales avec quelqu'un que vous avez peut-être croisé, qui était Georges Frêche, qui était un grand ami d'Israël, grand ami de M. Barnavi. Ils avaient au moins un point commun qui était d'être tous les deux professeurs d'histoire, et donc ça m'a donné l'occasion d'aller plusieurs fois en Israël. Moi j'avais envie de vous poser une question peut-être un peu brutale, mais qui est sans doute un des sujets actuellement de certaines tensions en France. Peut-on critiquer l'État d'Israël?
Écoutez, je crois que la politique israélienne peut et doit être critiquée comme celle de tous les autres États dans le monde, lorsque l'on estime que le gouvernement israélien commet des erreurs, que son armée poursuit une politique qui parfois débouche sur des bavures, du moins l'imposition d'une occupation militaire en Cisjordanie, et puis effectivement, au nom du droit à la critique, je pense d'ailleurs que c'est être patriote israélien que d'exprimer une critique justifiée envers la politique de l'État où on vit.
Est-ce que vous avez le sentiment que, alors je ne sais plus quel est le nom exact, mais que le mouvement pour la paix en Israël s'affaiblit ou au contraire se renforce parce qu'il y a des positions? Est-ce que le changement, ce qui est une double question, est-ce que le changement de Premier ministre d'il y a 3-4 mois a infléchi effectivement cette position et a permis à des mouvements plus libéraux au sens large du terme d'éclore en Israël?
Je crois qu'on n'est pas encore là. Voyez-vous, la Knesset, le Parlement israélien, compte 120 députés.
Oui.
Et 61 d'entre eux ont fini par conclure qu'il fallait absolument renverser le pouvoir de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, et de son parti, le Likoud, qui a à peu près une trentaine de mandats, pour transformer la gouvernance du pays.
D'accord.
En effet, on considérait que la gouvernance de M. Netanyahu portait atteinte à certaines institutions régaliennes d'Israël, à la police, à la justice, aux finances que lui et son parti attaquaient régulièrement. Donc ces 61 députés ont fini par se mettre d'accord pour former une coalition qui est totalement hétéroclite, qui va de partis de droite, ou sinon même d'extrême droite messianique, pro-annexion, qui sont pour l'annexion des territoires palestiniens,
c'est-à-dire
considérant
Eretz Israël,
que la Cisjordanie ne peut qu'appartenir aux Juifs. À l'autre extrême, vous avez la gauche, les travaillistes et le petit parti Meretz, qui eux sont totalement anti-annexionnistes. Au milieu, vous avez des partis de centre, et puis tout cela également est même soutenu par une petite formation islamiste arabe. Donc, ces 61 députés, on pensait que ça allait durer 15 jours, 3 semaines, et que cette coalition allait s'effondrer. D'abord, elle ne s'effondre pas. La condition de son existence, c'est on ne parle pas de ce qui fâche et de ce qui risque de provoquer une crise. Mm-hmm. En l'occurrence, la droite annexionniste ne peut pas procéder à la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie parce que cela provoquerait le départ de la gauche qui y est absolument opposée. Donc on ne parle pas des Palestiniens. Donc tout ce qui est la paix avec les Palestiniens est aujourd'hui complètement gelé par l'existence même de ce gouvernement.
D'accord.
Soutenu d'ailleurs par Joe Biden, le président américain,
oui,
qui a fini par reconnaître que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas parler d'une solution à deux États, c'est-à-dire d'une paix entre Israël et la Palestine.
D'accord.
On verra pour l'instant, l'urgence en Israël, c'était de revenir un gouvernement, entre guillemets, normal.
Ouais.
Des ministères fonctionnent, où après 3 ans et demi sans budget de l'État, finalement un budget a été préparé, doit être soumis à la Knesset, au Parlement, la ministre de l'Intérieur, qui est d'extrême droite, parle avec le ministre de la Santé, qui lui est plutôt très à gauche. Donc on a un nouveau dialogue national. Cela se fait malheureusement sur le compte d'une avancée possible avec les Palestiniens. Mais il ne faut pas désespérer parce que aussi bien les Américains qu'une entente plus ou moins vague entre les différentes composantes de ce gouvernement veulent améliorer les institutions palestiniennes, essayer de réduire la tension avec les Palestiniens, notamment en Cisjordanie, je ne parle pas de Gaza, qui est un autre problème.
Mais est-ce que le mode de désignation des députés à la Knesset, qui est quasiment une proportionnelle intégrale, n'oblige pas finalement à des gouvernements de coalition ou à l'impossibilité de former un gouvernement qui serait monocolore ?
Écoutez, vous avez tout à fait raison. La proportionnelle intégrale produit un émiettement de partis politiques. Alors, on a augmenté le pourcentage du seuil d'éligibilité. Ça n'a pas suffi. Il faudrait transformer le système électoral, mais pour cela, il faudrait que tous les partis arrivent à se mettre d'accord, ce qui intégralement est impossible parce que justement, il y a la proportionnelle intégrale qui contrôle la Knesset.
Oui, non, tout à fait.
Oui, donc c'est tout à fait normal, puisque ce n'est pas leur intérêt de se mettre d'accord.
Exactement.
Là-dessus.
Exactement.
Et dites-moi, je devrais avoir honte de vous poser cette question, est-ce que finalement l'ambassade des États-Unis a été transférée de Tel Aviv à Jérusalem ?
Oui, elle a été transférée
d'accord.
par l'administration Trump, Biden l'a laissée.
D'accord.
Joe Biden, l'administration démocrate américaine, voudrait rouvrir le consulat général des États-Unis à Jérusalem-Est, qui était une sorte d'ambassade auprès de la Palestine.
D'accord,
c'est ça.
Et l'administration Trump l'a fermé. L'actuel gouvernement, de droite comme de gauche, a peur que ça provoque de nouveau des tensions entre les différents partis politiques. Et pour l'instant, ça ne se fait pas, ce qui est très dommage.
Oui, j'imagine.
Je rappelle pour les auditeurs de Divergence FM que vous serez le 4 octobre à 18h30 à la Maison de la Démocratie. Donc tout le monde sait où c'est, à Montpellier, c'est 16 rue de la République. Et vous serez là donc pour nous éclairer, on peut dire, hein, sur ce qui se passe entre Israël et la Palestine notamment. Et puis pour présenter un ouvrage aussi, l'ouvrage qui s'appelle « De notre correspondant à Jérusalem ». Monsieur Andernin, je vous laisse encore une petite question avec Jean-Pierre Foubert. Et puis après, je vous laisse à vos nombreuses occupations.
Oui, moi j'avais envie de vous poser une question, parce que une question sur le livre que comment vous avez publié et dont le titre c'est Les Juifs de France entre République et Sionisme. Est-ce que le mouvement de et notamment de jeunes qui quittent la France et qui vont s'installer en Israël, alors j'ai quelques amis montpelliérains qui y sont, l'ancien directeur de cabinet de la région, qui sont restés de bons copains, Michel Lévy qui a été journaliste à Montpellier, puis qui a animé Guizène TV pendant quelques temps, etc., etc., et qui habitent maintenant
en Israël.
Ils sont tous à Tel Aviv, ce qui ne m'étonne pas d'eux, plutôt qu'à Jérusalem, mais voilà, c'est assez étonnant. J'ai pas mal d'amis qui ont, disons, allez, entre 40 et 50 ans, et qui sont allés s'installer, effectivement, avec femmes et enfants en Israël.
Bah écoutez, c'est un phénomène, effectivement, l'immigration qui a commencé qui a été relancée il y a une quinzaine d'années.
C'est ça.
Chacun y trouve son compte ou pas. Il faut immigrer en Israël avec un projet, pour y faire quelque chose.
C'est ça.
Il ne faut pas immigrer contre quelque chose en disant il y a de l'antisémitisme en France, je pars en Israël. Ça, c'est la mauvaise manière de partir, parce que, vous savez, des dangers, il y en a là-bas aussi, il y en a également en France. Et puis l'antisémitisme, c'est un peu le thème de mon livre, publié l'année dernière, « Les Juifs de France entre République et Sionisme ». L'antisémitisme a toujours existé en France, à
Absolument.
Des niveaux plus ou moins importants. Il y a des périodes, ça dépend aussi de quel côté ça vient. Il y a une extrême droite antisémite qui a toujours existé en France depuis le 19e siècle et l'émancipation des juifs par la Révolution. On a eu très vite de l'anti-judaïsme. C'est une histoire que j'ai écrite. À mon avis, cela ne justifie absolument pas une immigration. Vous savez, immigrer, c'est difficile, surtout quand on part avec toute la famille. L'hébreu est une langue pas toujours facile à apprendre. Personnellement, j'ai fait mon alia, j'ai arrivé en Israël jeune étudiant en décembre 68, je le raconte dans le livre que je viens de publier, et les périodes sont parfois difficiles. C'est des systèmes différents, c'est une culture différente, c'est une manière de faire beaucoup plus proche des anglo-saxons que de l'Europe, et certainement de la France.
C'est ça.
Donc il faut s'habituer, et ce qui est parfois terrible, c'est l'échec d'une immigration, c'est revenir après avoir raté son séjour. Alors bon, ce qui est peut-être le plus facile encore, ce sont les personnes plus âgées qui vont prendre leur retraite en Israël, et qui eux, tout doucement, apprennent l'hébreu, et apprennent à faire cette vie. Maintenant, pour les jeunes juifs de France qui arrivent, à 18 ans, il faut partir à l'armée, c'est 3 ans.
Eh oui, c'est pas pareil,
c'est
là.
Hein. C'est pas pareil. Ah non, les filles, c'est 2 ans.
Bien sûr. Écoutez, moi j'étais ravi de pouvoir m'entretenir avec vous, et donc je me ferai un plaisir de venir vous écouter. Le 4 à 18h30 à la Maison de la Démocratie.
Le plaisir sera pour moi.
Voilà, et j'ai salué mon vieux copain André Moutot, qui est le président de l'association Montpellier Rennes pour le journalisme humaniste et laïque. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, monsieur Andernin, merci d'avoir répondu à nos questions, et puis on vous attend à Montpellier.
D'accord.
Vous savez qu'il est une ville très ouverte.
Journée.
Vous savez que Montpellier a le plus vieux mikvé d'Europe.
Eh oui.
Là-bas. On va en profiter.
Non, mais ce qu'il faudrait, écoutez, je vais essayer de voir si on ne pourrait pas vous le faire visiter pendant votre séjour, parce que vraiment, c'est
un... Mon séjour est très bas, très une nuit à Montpellier.
Je vais voir avec André Moutot s'il ne peut pas éventuellement vous emmener. C'est à un quart d'heure, même pas, de l'endroit où vous allez faire votre conférence. Donc, je vais lui proposer ça, et puis après, vous verrez. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et bon courage pour cette tournée.